Quatrième partie. Appât empoisonné. 1. Il ne faut pas longtemps à Brady Hartsfield pour décider de la manière dont il s'y prendra pour empoisonner Odell, l'ami à poil de Jérôme Robinson. Et ça aide que Brady soit aussi Ralph Jones, un double fictif avec juste ce qu'il faut de crédit fidélité et une carte Visa avec haut plafond de retrait, pour pouvoir passer commande sur des sites tels qu'Amazon et eBay. La plupart des gens ne savent pas à quel point il est facile de se créer un avatar. Il suffit de payer ses factures. Sinon, on peut se faire démasquer en un rien de temps. Sous le nom de Ralph Jones, il commande une boîte d'un kilo de Gopher Go et donne l'adresse de la boîte postale de Ralphie, le Speedy Postal près de Discount Electronics. Le principe actif du Gopher Go est la strychnine. Brady recherche sur le net les effets d'un empoisonnement à la strychnine et découvre avec délectation qu'Odell passera un long et douloureux quart d'heure. 20 minutes environ après l'ingestion, la victime commence à présenter des spasmes musculaires au niveau du cou et de la tête. Les spasmes se propagent ensuite très rapidement au reste du corps. La bouche s'étire en un rictus, et chez les humains en tout cas. Pour ce qui est des chiens, Brady ne sait pas. Il peut y avoir des vomissements. Mais à ce stade de l'intoxication, trop de poison a été assimilé par le corps et il est déjà trop tard. Les convulsions s'installent et empirent jusqu'à ce que la colonne vertébrale se cambre brutalement et reste bloquée. Il arrive que l'épine dorsale se rompe carrément. Quand la mort survient, comme une délivrance, Brady n'en doute pas, c'est par asphyxie. Le système nerveux chargé d'amener l'oxygène aux poumons déclare forfait. Brady a tellement hâte. Heureusement, il n'aura pas à attendre longtemps, se dit-il, alors qu'il éteint ses 7 ordinateurs et remonte les escaliers. Il devrait recevoir son petit colis la semaine prochaine. La meilleure façon de faire avaler ce truc au clébard serait de le mélanger à une délicieuse et juteuse boulette de steak haché. Tous les chiens aiment le steak haché. Et Brady sait exactement comment il livrera sa friandise à Odell. Barbara Robinson, la petite sœur de Jérôme, et son amie Hilda adorent aller aux Onis Gomart, la supérette à quelques rues de chez les Robinson. Elles disent que c'est parce qu'elles aiment leur icy au raisin, mais si elles aiment tant y aller, c'est parce qu'elles y retrouvent leurs autres petites copines. Là-bas, elles s'assoient sur le muret du parking de 4 places derrière la supérette, 6 petites poulettes piaillant, rigolant et s'échangeant des bonbons. Brady les voit souvent quand il passe au volant de son camion de Mr. Delice. Il leur fait coucou de la main et elles lui font coucou en retour. Tout le monde aime le marchand de glace. Mrs. Robinson autorise ses sorties 1 à 2 fois par semaine. Zonis n'est pas un repère de drogués. Elle a probablement enquêté elle-même là-dessus. Mais pose certaines conditions que Brady n'a aucun mal à imaginer. Barbara ne doit jamais y aller seule. Elle doit revenir au bout 1 heure maximum. Elle et ses copines doivent toujours prendre d'elle. Les chiens ne sont pas autorisés chez Gomart. C'est pourquoi Barbara l'attache à la poignée de la porte des toilettes extérieures pendant qu'elle et Hilda vont acheter leur granité au raisin. C'est là que Brady, dans sa propre voiture, une Subaru banale, jettera la boulette de viande létale à Odell. C'est un gros chien. L'agonie pourrait durer 24 heures. Brady l'espère. Le chagrin a son propre pouvoir de contagion, bien rendu par l'adage « la merde a tendance à s'étaler ». Plus Odell souffrira, plus la petite négresse et son grand frère souffriront. Jérôme fera part de son chagrin au vieux flic, alias Kermit William Hodges, qui comprendra alors que le chien est mort par sa faute. Simple vengeance pour lui avoir envoyé ce message rageant et irrespectueux. Quand Odell mourra, le gros flic saura. Les yeux écarquillés par son début de prise de conscience, Brady s'arrête en plein milieu de l'escalier du 1er étage, écoutant les ronflements de sa mère en bruit de fond. Le gros saura. Et ça pose un problème, non? Car chaque action entraîne son lot de conséquences. C'est la raison pour laquelle Brady a pu imaginer empoisonner la cargaison de glace qu'il vend aux mioches. Mais qu'il ne le fera probablement pas. Pas tant qu'il voudra faire profil bas, en tout cas. Et pour l'instant, c'est bien ce qu'il compte faire. Apparemment, Hodges n'a toujours pas montré la lettre à ses anciens collègues de boulot. Au début, Brady pensait que Hodges voulait que ça reste entre eux, qu'il voulait peut-être essayer de coincer le tueur à la Mercedes tout seul et s'octroyer ainsi un dernier moment de gloire post-retraite. Mais Brady n'est pas si bête. Pourquoi est-ce que ce putain d'Offrette chercherait à le coincer s'il pense avoir affaire à un imposteur? Brady n'arrive pas à comprendre comment Hodges a pu en venir à cette conclusion alors que lui, Brady, savait, pour le bonnet de douche et la javel, détails qui n'ont jamais été révélés à la presse. Or, c'est ce qu'il a conclu. Si Brady empoisonne Odell, Hodges appellera ses copains flics à la rescousse, à commencer par son ancien coéquipier, Huntley. Pire, ça pourrait donner à l'homme que Brady tente de pousser au suicide une nouvelle raison de vivre, renversant l'effet escompté de la lettre si savamment composée. Ce serait totalement injuste. Pousser la connasse de Trelawney à bout avait été le plus grand kiff de toute sa vie. Bien plus grand, pour des raisons qu'il ne comprend pas et ne souhaite pas élucider, que de tuer tous ces gens avec sa voiture. Et il voulait revivre ça. Que l'inspecteur en chef de l'enquête se suicide, quel triomphe ce serait! Brady n'a pas bougé. Il réfléchit intensément. Il se peut que le gros enfoiré saute quand même le pas, se dit-il. Tuer le chien pourrait être le dernier petit coup de pouce dont il a besoin. Sauf qu'il n'y croit pas vraiment, et que sa tête se remet à palpiter comme pour le mettre en garde. Il ressent une soudaine et terrible envie de redescendre au sous-sol, d'aller sur le site du parapluie de débit et de demander au vieux flic de quel putain d'éléments de preuve il parle pour que lui, Brady, puisse les démolir. Mais ce serait une grave erreur. Il aurait l'air suppliant, voire désespéré. « Va te faire foutre, connard !» Mais c'était moi. J'ai risqué ma liberté, j'ai risqué ma vie, et je l'ai fait. Tu peux pas me l'enlever, c'est injuste. Sa tête le lance à nouveau. Espèce d'enfoiré de fils de pute, pense-t-il. D'une manière ou d'une autre, tu vas payer. Mais pas avant que je crève le chien. Peut-être que je crèverai aussi ton nègre. Peut-être toute sa famille. Et après ça, tout un tas d'autres gens. Suffisamment pour qu'à côté, le massacre du City Center ait l'air d'un pique-nique. Il retourne dans sa chambre et s'allonge sur son lit en sous-vêtements. Sa tête le lance à nouveau et ses bras tremblent, comme si c'était lui qui avait ingéré de la strychnine. Il n'a plus qu'à attendre et agoniser jusqu'au petit matin. À moins que... Il se lève et redescend le couloir. Il reste devant la porte ouverte de la chambre de sa mère pendant au moins 4 minutes, puis capitule et entre. Il s'allonge à côté d'elle, et son mal de tête commence à se dissiper presque aussitôt. Peut-être que c'est la chaleur du lit, peut-être que c'est son odeur, shampoing, lait pour le corps, vapeur d'alcool. Les deux, probablement. Elle se retourne, ses yeux grands ouverts brillent dans le noir.
Oh, mon lapin, ça recommence?
Oui.
Il sent les larmes lui brûler les yeux.
Une petite sorcière?
Non, une grande sorcière cette fois.
Tu veux que je t'aide?
Elle connaît déjà la réponse. Elle la sent palpiter contre son ventre.
Tu en fais tellement pour moi,
dit-elle avec tendresse.
Laisse-moi faire au moins ça pour toi.
Il ferme les yeux. Son haleine est chargée d'alcool, mais ça ne le dérange pas, même si d'habitude il déteste.
D'accord.
Elle s'occupe de lui prestement et d'une main experte. Ça ne prend pas longtemps. Ça ne prend jamais longtemps.
Voilà,
dit-elle.
Dors maintenant, mon lapin.
Et il s'endort, presque immédiatement. Quand il se réveille à la lueur du jour, elle ronfle de nouveau, une mèche de cheveux collée au coin de la bouche. Il sort du lit et retourne dans sa chambre. Il a les idées claires. Son poison pour rongeur à la strychnine est en route. Quand il arrivera, il empoisonnera le chien, et au diable les conséquences. Au diable les putains de conséquences. Quant à ces sales nègres petits bourgeois avec leur nom de blanc, on s'en fout. Le gros viendra ensuite, mais seulement après qu'il aura eu pleinement l'occasion d'éprouver la douleur de Jérôme et le chagrin de Barbara. et peu importe qu'il se suicide ou non, l'important, c'est qu'il disparaisse. Et après ça, quelque chose de grand, dit-il en enfilant un jean et un t-shirt blanc. Des flammes de gloire. Quel genre de flamme exactement? Il ne sait pas encore. Mais c'est pas grave. Il a le temps. D'abord, il doit régler quelque chose. Il faut qu'il démolisse les soi-disant éléments de preuve de Hodges et qu'il réussisse à le convaincre que c'est lui, Brady, le tueur à la Mercedes, le monstre que Hodges n'a jamais réussi à attraper. Il faut qu'il remue le couteau dans la plaie jusqu'à ce que ça saigne. C'est quelque chose qu'il doit faire. Car si Hodges croit à ces éléments de preuve bidons, les autres flics, les vrais flics, y croiront aussi. Et c'est inacceptable. Il faut que je sois crédible, s'exclame Brady, seul dans la cuisine. Il faut que je sois crédible. Il entreprend de se confectionner le petit déjeuner. Eux, bacon. L'odeur pourrait monter jusqu'à maman et lui donner envie. Et si elle se lève pas, pas grave. Il mangera sa part. Il est affamé.